Donc, au courant des dernières années, les romans et les séries de science-fiction post-apocalyptiques qui mettent en scène une jeune fille héroïne guerrière éclatent et prolifèrent, au point où ces filles en construisent presque une matrice récurrente, répétée à l'infini. Le « teenage craze » pour ces séries dystopiques, selon le terme d'Amanda Craig, se situerait justement derrière ces jeunes filles fortes, nouvelles icônes dites féministes et surtout rebelles, à la fois à l'intérieur de leur société dystopique et dans leur représentation. Ces filles, tout en bousculant les conventions liées au féminin, participeraient à créer un idéal de toutes les convoitises. Donc, ces héroïnes tough, qui sont à la fois belles, ingénieuses, rusées, et qui, selon les mots de Sylvie Varcillon ici présente, se battent à armes égales contre des adversaires masculins et féminins et déclenchent des révolutions. Ces filles sont plus que jamais à la mode, et serait ce qui rendrait la dystopie contemporaine, selon Craig, « so fashionable ». Les personnages de Katniss et de Triss, donc des séries littéraires et cinématographiques Hunger Games de Suzanne Collins et Divergent de Veronica Roth, sont deux exemples de ces héroïnes guerrières populaires qui incarnent des corps rebelles. Autant comme personnages que dans les représentations, la dystopie incarnerait donc cette rébellion à l'ordre établi, comme le mentionne Amanda Craig et je la cite. « All good dystopian novels are driven by the will to resist conformity ». Donc, nous nous intéresserons plus précisément à cette résistance au modèle féminin dit traditionnel que présentent ces personnages. Car il est vrai que les deux héroïnes féminines qui incarnent de plusieurs façons la tough girl, telle que caractérisée par Sherry Innes dans son ouvrage, possèdent en effet toutes des filles du tempérament rebelle. Elles sont endurantes au niveau physique, elles sont coriaces, endurcies, mais surtout audacieuses, spontanées et drôlement naturelles, au point où elles se font souvent rappeler à l'ordre d'être prudentes face à cette répartie qui les pousse souvent à agir sans réfléchir sur le coup de l'émotion. Bref, elles bousculent les conventions et provoquent la révolte au cœur d'un système social particulièrement rigide. Donc, ma communication, qui se penche plus précisément sur ces deux héroïnes de monde dystopique, Katniss et Triss, se veut aujourd'hui surtout une exploration autour des représentations du corps féminin rebelle, dans une idée générale que l'idéalisation des héroïnes des séries dystopiques pour adolescents passe par leur corps éprouvé et par la capacité qu'elles ont à la résistance sous toutes ses formes. Par les références aux notions de corps extrêmes, de survivance et de discipline corporelle, nous observerons de quelle façon Triss et Katniss donnent l'impression d'un corps rebelle, mais celui-ci restant néanmoins conditionné à l'intérieur d'un système de pouvoir et de normalisation des corps. Donc la tough girls et la survalorisation du corps extrême. Si, selon Sylvie Varcillon, je m'excuse, je vais vous citer beaucoup aujourd'hui, les séries dystopiques peuvent constituer un champ privilégié d'épanouissement des personnages féminins hors normes qui remettent en question les modèles traditionnels, ces œuvres sont surtout le réceptacle d'une nouvelle valorisation de corps extrêmes, solides, coriaces. En effet, ces corps qui expérimentent des sensations fortes, des douleurs extrêmes et qui vivent dans le risque se rapprochent de ce que Ariane Bessette, dans sa thèse, définit par le corps extrême, donc qui constitue notamment, en le dépassement des limites du corps, un désir de briser les conventions ainsi que la volonté de dévoiler la mortalité du corps, donc par son rapprochement constant avec les limites de celui-ci. On peut dire que les héroïnes des fictions dystopiques telles que sont Katniss et Triss proposent une représentation des corps extrêmes féminins parce qu'elles sont soumises à des épreuves physiques intenses et qu'elles explorent les limites et l'endurance du corps. Excusez. Donc, Sylvie Varcillon le confirme en affirmant que Katniss incarne un état limite du féminin en ce que, malgré ses 16 ans, elle est passée dans des conditions de survie extrêmes où son corps est contraint de se plier aux exigences imposées par l'autorité. En effet, Katniss se voit dans l'obligation d'assurer sa survie et celle de sa famille. Et puis, lorsqu'elle se retrouve au cœur des Hunger Games, donc elle doit lutter pour se garder en vie. Triss, dans son cas, devient malgré elle la cible de répression, puisqu'elle est désignée comme une divergente, c'est-à-dire comme potentiellement dangereuse à la sauvegarde d'une société en paix. Cette valorisation des corps extrêmes dans la littérature et au cinéma trouve, selon les auteurs Sylvie Bérard et Andrea Zanin, écho dans notre société contemporaine. En effet, selon elle, dans un monde où l'extrême est prisé et où chaque minute doit être vécue dans l'intensité ou ne pas être, donc ces deux auteurs affirment que, et je les cite, « nos identités se construiraient et se modéliseraient dans l'idée d'une performance extrême vers les limites de nos possibilités, réelles ou idéalisées, oscillant vers l'infiniment gros et l'excessivement maigre, le toujours plus rajeuni et la plus grande longévité, les sensations fortes de tout acabit. » Donc, cette conception valorisée de l'extrême serait quintuplée dans les fictions dystopiques. En effet, Bérard et Zanine proposent que la littérature et les mondes fictifs en général, donc le cinéma, les jeux vidéo, etc., parce qu'ils s'affranchissent des contingences du monde réel, permettent de repousser davantage les frontières de l'extrême. En ce sens, les sociétés post-apocalyptiques seraient, selon moi, à même de glorifier ces représentations de corps extrêmes. En proposant des systèmes sociaux basés sur la peur, sur la répression, dans une dynamique visant le contrôle à la fois physique et mental des habitants, ces systèmes sont mis en place à la suite de guerres sanglantes pour éviter des futures rébellions de la part du peuple et proposent des conditions de vie déjà extrêmes. Dans l'idée d'une rigidité suprême, ces sociétés supportent l'idée de séparer pour mieux régner, comme c'est le cas pour les districts dans Hunger Games et les factions dans Divergent. L'oppression de ces sociétés participerait ainsi à la création de corps extrêmes vivant sous le joug des manques, de privation et de contrôle rigide. L'extrémal se pose cependant comme problématique dans ces fictions young adultes, dans la mesure où, si les représentations du corps se veulent extrêmes, elles ne brisent pas les conventions et sont loin d'incarner une position anticonformiste. Au contraire, le corps extrême se développe à l'intérieur d'un cadre rigide de représentation qui empêche celui-ci de se libérer au-delà des limites permises. Nous en verrons un exemple plus loin avec Triss. Le rapport des héroïnes à la violence et aux épreuves de combat de la même façon pourrait participer à l'incorporation d'un corps extrémal. Cependant, il me semble que les cadres narratifs dystopiques dans lesquels évoluent les héroïnes problématisent aussi leur rapport au corps extrême et à la violence dans la perspective où elles se voient, dans ce fait, dans une certaine obligation d'être fortes et violentes. La violence, dans leur cas, se voit justifiée par des agents extérieurs et ne vient pas nécessairement d'elles-mêmes. Donc, un exemple de cette dynamique se démontre facilement chez Katniss, dont la force première vient d'un besoin de survivance et de protection. La violence, donc, provenant ici surtout d'un désir de protéger ceux qu'elle aime ou de sauver sa propre peau. Donc, dans un cas ou dans l'autre, les héroïnes manifestent explicitement leur agacement face à l'obligation d'être violente, ainsi que le dégoût face aux morts qu'elles provoquent malgré elles. Donc, en fait, la force des personnages de Katniss et Triss provient d'une combativité qu'elles développent au fur et à mesure de l'intrigue, sous le coup qu'elles se retrouvent malgré elles au cœur de danger. Et n'ayant pas vraiment nécessairement l'envie d'être ce qu'elles sont, elles finissent par accepter leur destin, mais y sont poussées. Donc, on peut les considérer comme fondamentalement bonnes et violentes plutôt par sacrifice, écrasées qu'elles sont par leur fardeau d'être ce qu'elles doivent être et se battre. Donc, on le voit bien dans la manière dont Katniss refuse tout d'abord de mener la révolte, craignant de devoir causer encore des morts innocentes. La même chose se voit chez Triss, qui, dans le second opus, se livre à Janine afin que cessent les suicides que cette dernière occasionne par sa faute. Ainsi, elles prennent les armes parce qu'elles n'ont pas le choix. En effet, elles ont, une et l'autre, un monde à sauver. Mais leur opinion change au fur et à mesure de l'histoire, donc ayant bientôt la considération intrinsèque qu'elles doivent agir et qu'elles en ont le pouvoir. Malgré tout, leur position les pose dans une certaine fatalité et ainsi, elles canalisent toute leur force dans leur féroce désir de survivance. Par ces comportements, les héroïnes ne proposent pas une représentation de la fille forte, on pourrait dire classique, notamment par le fait qu'elles sont présentées comme à la fois fortes et vulnérables, violentes et sensibles, donc même si elles ne cherchent pas nécessairement à le montrer, mais nous y reviendrons. Cependant, donc, elle propose en ce sens des représentations plutôt nuancées et de ce fait réalistes et humaines, ce qui explique peut-être qu'elle provoque aussi ainsi autant d'émoi de la part du public. Donc, la survivance du personnage féminin. Les conditions extrêmes de leur existence construisent des héroïnes qui proposent des corps solides et extrêmes qui ont la capacité de survivre aux épreuves physiques et mentales dont elles sont l'objet. Leur force, leur capacité de résistance, de plus que les rudesses dont sont l'objet leur corps, semblent au cœur de la popularité que leur donnent les lecteurs, lectrices, téléspectateurs, téléspectatrices, et elles sont acclamées ainsi comme modèles. Mais plus que leur corps coriace, c'est leur capacité à lutter contre les blessures et la douleur qui est mise en évidence. Par exemple, dans un article qu'elle écrit pour une revue populaire, Sylvie Vartian décrit les héroïnes de fiction dystopique en ces mots, je la cite. « Elles subissent d'atroces blessures, mais finissent par en guérir. Toujours, elles survivent. » Fin de la citation. Donc, la force des guerrières se témoigne ainsi par leur capacité à survivre à toutes sortes d'épreuves et surtout à s'en sortir indemne. Encore une fois, Sylvie Vartian décrit longuement les blessures que Katniss subit, comme quoi elle sera, je la cite, « déshydratée, battue, tailladée au couteau, empoisonnée, piquée par des guêpes, assommée et brûlée sur une grande surface de son corps et de son visage, ce qui la rendra méconnaissable. Forte, elle survit à ses blessures et ne pleure jamais sur son sort. » Il serait possible de proposer que la popularité de ces héroïnes fortement idéalisées viendrait du fait qu'elles combleraient un vide chez les lecteurs, lectrices, téléspectateurs, téléspectatrices, comme c'est le cas de Katniss qui, selon les mots d'une adolescente interviewée par Amanda Craig, Katniss serait donc « the kind of strong teenage heroine we were all waiting for ». Également dans son ouvrage « Tough Girls, Women Warrior pardon, and Wonder Woman in Popular Culture », Sherry Innes va dans le même sens en proposant que les héroïnes fortes proposées de plus en plus depuis quelques années dans la culture populaire intrigueraient parce qu'elles supporteraient un idéal de la survivance et de l'invincibilité des femmes. Et je la cite. We are fascinated by the female hero because she presents a myth of invincibility. Like her male cohorts, the tough woman is portrayed as impossible or nearly impossible to defeat. No matter what perils she might confront, we know she will survive. Cette idée de la survivance de l'héroïne guerrière peut se penser d'une première façon, donc en rébellion face aux représentations cinématographiques divergentes des femmes, donc qui traditionnellement, selon Cindy Sherman, mouraient plutôt ou se voyaient déchues. Ici, l'héroïne survit et résiste. Depuis, il est possible de concevoir cette nouvelle femme guerrière comme un catalyseur des réalités subies par les femmes dans la société, cristallisant de nouveau cette idée de manque abordée plus tôt. En effet, toujours selon Inès, et je la cite, Almost every woman dreams at one point or another about having the superpowers of toughness or character that will make her invincible. Ces observations donc nous poussent à voir la jeune héroïne des fictions dystopiques comme une allégorie de la résistance féminine au sein de la société. La résistance, donc être in control. En ce sens, les blessures subies par le corps de ces héroïnes, donc qui sont la trace de leur souffrance et de leur privation, deviennent des représentations héroïques de leur toughness, donc de leur capacité à résister et surtout à survivre. Ces blessures sont en quelque sorte les marques de guerre et des combats dont elles ont été les victorieuses, peu importe la profondeur des blessures physiques et mentales que ces épreuves ont laissées derrière elles. Les héroïnes de fiction dystopique se construiraient alors doublement sur le modèle de la résistance. À la fois corps rebelle aux institutions gouvernementales et figure de la résistance à l'autorité, leur corps physique serait en lui-même résistant, car capable d'endurer des souffrances physiques et mentales extrêmes que seule leur capacité de contrôle leur permettrait de traverser. Dans son ouvrage sur les Tough Girls, Sherry Innes reprend ce trope de la résistance en mentionnant que la Tough Girl se caractérise notamment par sa capacité d'être en parfait contrôle physique et mental d'elle-même. Je la cite. Along with showing little fear, the tough woman must appear competent and in control, even the most threatening circumstances when everyone else falls apart. Elle ajoute également que la tough woman have the stamina to endure when physically weaker women might fail. Le contrôle implique ainsi principalement de résister, mais aussi de ne pas laisser voir ses faiblesses. She can endure tremendous physical and emotional suffering and still emerge the victor. She has the tight emotional and physical control. Le contrôle des émotions participe ainsi à renforcer leur côté tough. On note notamment que Katniss contient ses émotions, refoule ses larmes, et que Triss, au cours de son entraînement, ne veut pas pleurer pour peur qu'on la prenne pour une faible. Ces contrôles, qui seraient selon Inès reprises de figures masculines, de héros forts et courageux, seraient ici repris pour le féminin, mais problématisant de ce fait l'ingouvernabilité des héroïnes, puisque faisant écho aux tropes liées au contrôle du corps féminin. Ainsi, pour prouver sa force, l'héroïne guerrière des fictions dystopiques en doit passer par l'épreuve de la résistance mentale et physique, qui la constitue ensuite comme héroïne tough. Cette idée rejoindrait peut-être cette performance du tough telle que proposée par Inès. Il est néanmoins évident que dans les séries Hunger Games, la personnage de Katniss offre une critique du contrôle des corps et de la féminité par l'intermédiaire de la mascarade qui l'amène à devoir performer le corps féminin, mais Triss, de son côté, est davantage dans la reproduction de la discipline corporelle. Mais si les héroïnes produisent des représentations de corps en contrôle, celui-ci est d'autant plus problématique qu'il se construit dans les deux séries à l'intérieur d'un système de pouvoir. Dans ces séries, ces héroïnes rebelles se voient surtout, chacune à leur manière, contraintes de reproduire un modèle corporel strict qui implique une incorporation des normes soit féminines, pour Katniss, ou normalisées, pour Triss. Cette idée, donc, ayant déjà développée dans le cas de Katniss dans un article de Sylvie Vartian, nous nous concentrons aujourd'hui sur le cas de Triss et à la normalisation de son corps au cours de son entraînement extrême. Donc, au moment de son affectation à la faction qui sera la sienne pour le reste de sa vie, Triss, dont le test a démontré un résultat divergent, donc ce qui l'a fait capable d'intégrer plusieurs factions, choisit les audacieux, dont les membres ont comme fonction de devenir des protecteurs de la société, des soldats, des membres de la police ou des gardiens du mur qui entourent la ville. Malgré son passé altruiste, Triss est attirée par les audacieux parce qu'ils sont, je la cite, courageux, libres et sans peur. De plus, les audacieux se proposent de vivre dangereusement et sont ainsi sans cesse confrontés aux risques, que ce soit par leur saut du train qu'ils doivent effectuer tous les jours pour se rendre à leur faction, ou l'aménagement de leur lieu de vie, où les rambardes et les criques sans barrière abondent et qu'un seul mauvais mouvement peut les amener à la mort. L'attirance de Triss pour cette faction se traduit ainsi parce qu'elle semble y retrouver un mode de vie extrême dans lequel elle doit tous les jours y renouveler sa survivance, rendant ainsi sa vie doublement active et excitante. Nous avions abordé que le corps extrême qui se caractérise, selon Ariane Bessette, par des conduites à risque et par une poussée des limites, tendrait vers un dépassement de la faiblesse naturelle du corps par le développement accru de sa force et une poussée constante de ses limites. Mais ces corps extrêmes dans la faction des audacieux, loin de représenter une anticonformité de leur image, rejoindraient surtout la conformité, en ce qu'ils se doivent ressembler à un certain modèle de force et de pouvoir. Cette normalisation des corps est représentée dans l'entraînement que doit suivre Triss à son entrée dans la faction, qui représente en tout point une épreuve de passage qui déterminera sa capacité à faire partie des audacieux, sinon en quoi elle sera obligée de devenir une sans-faction. L'entraînement, intense et très rigoureux, autant au niveau physique que mental, et qui se veut destiné à développer sa force, son courage et à vaincre ses peurs, se fera pour Triss sous le joug de deux entraîneurs masculins forts, stricts et intransigeants. Par le combat corps à corps, le lancer du couteau, la pratique du tir, le corps de Triss se verra poussé au maximum, mais surtout régulé, par l'installation d'un système de classement strict avec élimination dans lequel Triss sera mis en compétition féroce avec ses camarades. La place au sein des audacieux étant peu nombreuse et se devant d'être méritée, les novices ont peu de marge de manœuvre pour défier les contraintes et se voient ainsi obligés d'incorporer un modèle de combativité et dont le corps rejoindrait celui normalisé par la faction, donc afin de passer l'épreuve et de correspondre à ce que les entraîneurs attendent d'eux. Triss, qui désire prouver sa place dans la faction, se devra donc de soumettre son corps aux difficiles attentes de ses entraîneurs, de devenir comme ceux-ci le désirent et surtout de résister. Je la cite. En fait, je cite un entraîneur, ça dit « On verra bien combien de temps tu vas tenir. » Son corps sera ainsi forcé, blessé, mais surtout moulé et régulé selon le modèle strict de combativité des audacieux, qui n'acceptent parmi eux que ceux qui ont assez de force pour passer à travers l'entraînement. Cette dynamique de contrôle des corps se déploie plus précisément dans la relation entre Triss et son entraîneur, Four, alors qu'il témoigne d'une attitude supérieure à l'égard de Triss au début de l'entraînement, parce qu'elle provient des altruistes, qu'elle paraît faible et qu'elle a, selon lui, aucun muscle, Ford développera de l'estime, puis de l'amour pour la jeune novice qui aura prouvé qu'elle était capable d'être forte, de se battre et, en quelques mots, de résister aux épreuves et de subir la douleur sans flancher. La transformation de sa force, de son caractère et de son corps au fil de l'entraînement se verra un modèle valorisé, surtout qu'elle remarqua que son corps elle-même entraîné est désormais musclé. Je cite un extrait du livre en français. « Dans le miroir, je découvre des muscles qui n'étaient pas là avant, sur mon bras, mon ventre. Je me pince la taille où une fine couche de gras annonçait de futures formes, plus rien. L'initiation a éliminé les rares courbes qu'avait mon corps. Est-ce une bonne chose ou mauvaise? Au moins, je suis plus forte qu'avant. » Il devient manifeste que l'entraînement se veut un espace où vont se développer une force et un courage extrême, mais surtout la modélisation de corps balisés. Cette mascarade du rite de passage du corps se traduit également par le port de nouveaux vêtements sexy et de tatouages qui participent de cette normalisation de ce qui peut être constitué comme tough, donc ce qui rejoint l'idée de Sherry Innes comme quoi ces héroïnes can be tough but must retain a certain amount of vulnerability and femininity. Triss ne devient attrayante et développe sa confiance en elle que par l'intégration de ces éléments normalisés. La normalisation des corps se voit ainsi dans l'iconographie que présente Triss à l'écran. Sans être exagérément féminisée et sexualisée, elle constitue tout de même un corps féminin, donc on peut dire typique, par ses longs cheveux, son corps mince et son maquillage quelque peu ténébreux. Triss se constitue également comme désirable au sein de la relation amoureuse qu'elle développe avec Ford et ainsi demeure au sein des normes hétérosexuelles classiques. Il est tout de même pertinent de noter que dans les films subséquents, Triss tend à briser cette image, notamment par sa coupe de cheveux masculine et son comportement de plus en plus violent. Finalement, cette reconduction de la discipline corporelle du corps de Triss fait que l'on assiste aussi à une réduction de son autonomie et de sa capacité d'agir. On voit ainsi son corps assujetti à un homme ou à un pouvoir plus grand, bref, à une instance supérieure qui dictera le développement du corps de la jeune fille et ainsi sa représentation en tant que personnage genré. Triss, comme Katniss, donc si elle présente à premier égard des corps rebelles, ne sont jamais ainsi libérées des contraintes sociales ou de pouvoir. En effet, la rébellion de Triss et de Katniss s'inscrit partiellement dans une reconduction de la discipline des corps. C'est comme si ces séries mettaient en évidence l'impossibilité pour la femme d'avoir une réelle prise de subjectivité, particulièrement dans Hunger Games, où cette impossibilité est critiquée par le biais de la performance médiatique de Katniss. Bref, l'héroïne rebelle doit répondre aux attentes et se montrer forte afin de survivre aux épreuves. On leur demande d'être forte. D'ailleurs, David, dans le deuxième film de Divergent, dit à Triss, « Tu dois te montrer forte, promets-moi d'être forte. » Les héroïnes féminines des séries dystopiques se voient ainsi poussées à se battre, à ne pas montrer de faiblesse et surtout à triompher. Elles évoquent en ce sens un esprit de survivance féroce qui rejoint forcément les lecteurs, lectrices, téléspectateurs, téléspectatrices qui semblent y retrouver leur propre force. Dans le cas de Katniss, cette réussite se manifeste surtout par l'épilogue heureux de la fin qui, comme le précise Sylvie Vartian, montre la résilience du personnage et l'idée très forte qu'il est possible de se reconstruire et de retrouver goût à la vie, même après des épreuves extrêmes. En cela, les héroïnes constituent des modèles évidents de force et de résilience. Je terminerai cependant par une réflexion. Car le triomphe et cette survivance du corps féminin peuvent avoir un goût doux-amer au sein de ces dystopies qu'on pourrait qualifier de modernes, puisqu'en comparaison aux dystopies des années 1950-1990, les lecteurs, lectrices, téléspectateurs, téléspectatrices ne doutent pas une seule seconde que ces filles pourraient mourir ou échouer. Les dystopies modernes deviennent en ce sens une littérature cathartique, qui peuvent nous amener à nous questionner sur leur fonction, à savoir que si elles permettent de nous extraire de notre réalité par la représentation d'épopées dangereuses qui finissent bien, elles auraient aussi comme danger de normaliser et neutraliser ce qui est psychologiquement insupportable. La survivance des héroïnes dystopiques, ainsi, nous questionne à notre capacité de normaliser la violence et à valoriser ces corps et ces sociétés extrêmes, puisqu'ils sont désormais qu'un chemin à traverser vers un monde meilleur qui attend de l'autre côté. Merci.